cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Claude Samuel.
Bonjour.
Alors Claude Samuel, John Cage a 100 ans, enfin ou plutôt il aurait eu 100 ans le 5 septembre. Alors quand on évoque des personnalités de, on va dire, de la musique contemporaine, c'est toujours intéressant de parler avec vous parce que ce sont souvent des personnalités que vous avez rencontrées.
Et, oui, j'ai à peu près tous connus, oui.
À peu près tous, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que quand on prononce ce nom de John Cage, c'est un peu une sorte d'ovni, on pourrait dire, dans la musique du 20e siècle, hein, une sorte des plus atypiques artistes américains du 20e. Quel a été votre premier contact avec lui, mais avant même de le rencontrer, la première fois que vous avez entendu son nom et sa musique?
Je ne sais pas, parce qu'on a découvert beaucoup de pans de musique contemporaine dans les années 60, même un peu avant. Dès le début du domaine musical, c'est-à-dire plutôt dans les années 54-55. Et quand est-ce qu'on a donné les premières œuvres de Cage à Paris, je ne sais pas vous dire, mais ça doit être fin des années 50, début des années 60, on en a vraiment parlé sérieusement. Moi, je l'ai connu personnellement ensuite, j'étais à New York chez lui. Il faut dire qu'à l'époque, mais c'était nettement plus tard, j'avais organisé, au moment des rencontres de La Rochelle, tout un cycle de manifestations sur la musique américaine à l'occasion de l'année du bicentenaire. Et j'avais voulu représenter des différents courants, donc Cage, et j'avais invité Cage à venir. D'ailleurs, il est venu. Et il est resté à La Rochelle, c'était en 76. Il est resté avec nous pendant toute la durée, ou pratiquement, du festival. Mais je l'avais rencontré avant, et puis... je ne saurais pas vous dire quand, mais j'ai fait des émissions avec lui, des interviews, peut-être même avant cette occasion, là, c'est fort possible.
Alors c'est vrai que pour ceux qui le connaissent peu, pas ou très mal, c'est quand même une figure un peu particulière, c'est-à-dire que il y avait toujours ce débat un peu, est-ce que c'est un visionnaire ou est-ce que c'est un imposteur, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un poseur ou un théoricien par rapport à ses confrères de l'univers, de la sphère contemporaine.
Non, c'est une personnalité un peu particulière, mais c'est vraiment un produit de l'école américaine de la seconde partie du XXe siècle, mais peut-être même avant d'ailleurs, puisqu'il a commencé à travailler avec les pianos préparés dans la fin des années 30. C'est à l'époque où il a aussi après connu Merce Cunningham, etc. C'est tout un courant un peu d'expérimentaliste américain qui pense qu'on peut aller jusqu'au bout. La preuve, c'est que ce jusqu'au bout, pour lui, ça a été, par exemple, faire une œuvre de silence. C'est-à-dire que c'était un radical. Mais c'était surtout quelqu'un qui était profondément, je pense qu'il n'aurait pas accusé le mot, anarchiste. C'est-à-dire qu'il était contre tous les ordres établis, y compris sur le plan politique ou social. Il disait, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir des règles. La seule chose, c'est que il faut organiser un petit peu, comme un agent de police organise la circulation, il faut quelqu'un pour organiser les choses. Mais autrement, j'ai pas besoin d'un État, j'ai pas besoin... C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui voulait laisser à chaque personne les libertés totales. Et lui, il y a une anecdote dont je me souviens, quand il a écrit cette œuvre de silence, 4 minutes 33 secondes de silence, il m'a parlé de cette œuvre, bon, enfin je l'interrogeais, disons, sur cette œuvre, et il me disait, parce qu'il avait énormément d'ironie, d'humour et d'ironie, et il m'a dit, mais oui, c'est très facile cette œuvre, c'est très pratique, parce que je peux me la jouer quand je suis tout seul dans le métro, et c'est jamais deux fois la même. C'est-à-dire qu'il était très sensible à tout ce qui était hors musique, toute l'ambiance sonore tout autour de lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui captait les sons en dehors même d'une partition musicale. Et les sons en dehors d'une partition musicale, c'est des sons de hasard, c'est des sons qui peuvent être le bruit de la rue, le bruit de la nature. Mais il trouvait ça intéressant et peut-être même très beau. C'est-à-dire qu'il était, dans le fond allergique à tout ce que nous appelons l'organisation. Donc il était pour le hasard complet, il se passe ce qui se passe. C'est pour ça qu'à une époque, on a pensé qu'il y a eu un grand courant en Europe aussi sur un peu le hasard. Bon, et on a pensé que Boulez, par exemple, rejoignait Cage. C'était tout à fait le contraire.
C'est l'inverse que j'ai dit.
Parce que
ouais.
Boulez était d'accord pour qu'il y ait des parties, dans certaines de ses œuvres, la Troisième Sonate par exemple, des parcours à choisir par l'interprète, mais tout était absolument organisé. Et il y a eu d'ailleurs, pendant une certaine période, une correspondance très intéressante entre Cage et Boulez. Ils se sont connus lorsque Cage est venu à Paris, ils ont dû se retrouver à New York aussi, et ils avaient eux-mêmes l'un et l'autre des curiosités sur toutes les nouveautés en musique. Et puis après, Boulez a bien senti que, et l'un et l'autre ont bien senti qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y en avait un qui voulait laisser l'indétermination totale et l'autre qui voulait l'indétermination, mais dans l'organisation. Et ça a fini non seulement par des divergences esthétiques, mais aussi par une rupture finalement. Il n'y avait plus rien à se dire.
Oui, d'ailleurs, d'une certaine manière, ça rejoint un peu ce que vous aviez cité dans votre blog, une anecdote où on lui demandait s'il avait envie d'écouter les 9 symphonies de Beethoven. Il disait oui, mais tout ensemble.
Oui, exactement. Oui, oui. Mais c'était comme ça des traits d'humour, mais qui répondait quand même profondément à ce qu'il pensait. C'est-à-dire que il y a une œuvre également où pour différents postes de radio. Et on définit sur les postes de radio des longueurs d'onde. Mais on ne sait pas ce qui se passera dans cette radio spéciale à telle heure. C'est-à-dire qu'on mélange plusieurs postes de radio au hasard de ce qui se passe sur les ondes à ce moment-là.
Cette démarche qui était quand même fondée sur tout ce qui était aléatoire, phénomène aléatoire, on est vraiment loin des systèmes de composition européens.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un courant typiquement américain. Mais il est arrivé comme ça dans une sorte de mouvance à une époque, même en Europe, où on voulait mettre en l'air un peu toutes les règles, vous voyez. Donc on voulait dominer le désordre, mais on voulait le désordre aussi. Donc il est arrivé au bon moment en Europe, même si les compositeurs américains, il y en a qui ont été très intéressés par lui en Europe, évidemment. Mais c'est une époque quand même où l'Europe restait quand même la prisonnière d'une tradition qui n'était pas la sienne.
Et surtout, elle portait un regard assez méprisant quand même sur la création musicale américaine contemporaine.
Allô, oui.
l'Europe, alors, je veux dire, justement, l'avant-garde européenne a un peu méprisé quand même pas mal de temps toute la, tous les compositeurs américains.
C'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension réciproque, évidemment. Il faut dire que c'est en dehors d'un courant de pensée, c'était aussi une personnalité, il avait sa personnalité. C'était quelqu'un, par exemple, qui avait énormément d'humour, en effet, qui riait énormément, il avait un rire qu'on entendait à 300 mètres, qui était extraordinaire. Il avait des lubies aussi, c'était quelqu'un, par exemple, qui était passionné par les champignons, c'était un mycologue averti. On sait qu'il avait gagné un concours, il a été venu en Europe assez tôt d'ailleurs, je pense dans les années 50, il n'avait pas un sou, il a fait un concours à Rome, c'est un concours sur les champignons, il a gagné beaucoup beaucoup d'argent, qui a permis de vivre quelques jours grâce à ça. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui montrent que c'est un compositeur et une personnalité totalement atypique. Maintenant, ce qui est important aussi, ça a été, comme je l'ai signalé, la collaboration avec Merce Cunningham.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a emmené la musique aussi dans des territoires autres que la musique pure.
Oui. Alors, ce qui était quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait un vrai intérêt, pas simplement pour le son en général, mais aussi pour le renouveau de l'univers sonore. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a été, mais très très tôt, l'homme des pianos préparés. Il s'est aperçu qu'en prenant un piano, en introduisant entre les cordes du piano des objets, du caoutchouc, du métal, etc., on modifiait le son. Et donc il a fait des œuvres, beaucoup d'œuvres, pour piano préparé, qui montrent l'intérêt qu'il avait. C'est un intérêt constant à travers le XXe siècle, qui commence même d'ailleurs au XIXe siècle. On invente des instruments nouveaux, on utilise des instruments nouveaux d'une autre façon, on utilise l'électricité pour les instruments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, depuis, je pourrais dire depuis Berlioz, mais ça peut remonter avant aussi, une sorte de besoin d'élargir les divers sonores. Et d'une certaine façon, il s'est inscrit dans ce courant-là. Et en effet, le piano préparé a été quand même sa marque de fabrique, mais c'est quand même quelque chose qui est, sur un plan de la conquête sonore, vraiment importante. C'est pas seulement la technique, le fait d'utiliser les cordes d'un piano, mais c'est l'objet, c'est-à-dire le son, oui, mais même le son instrumental peut être autre.
Il a mis du temps quand même à imposer cette originalité, cette facette un peu libertaire qui dérangeait même les institutions, certes musicales, mais même des créateurs pourtant avant-gardistes.
Oui, mais ce renouvellement du son, pourquoi pas, mais je pense que Boulez répondrait, oui, mais au profit de quelle pensée musicale? Pourquoi? Parce que si c'est simplement un gadget sonore, pour tout un courant européen, dont est Boulez, mais pas que lui d'ailleurs, à quoi ça sert? La musique, c'est pas simplement un renouveau sonore, mais c'est aussi une pensée de composition. Et dans la pensée de composition, elle était totalement, cette pensée de composition, quelle qu'elle soit, était totalement absente dans la démarche de Cage. Ce qui différencie absolument cette démarche purement américaine de démarche européenne. C'est-à-dire, il faut bien le dire aussi qu'il était américain, mais il n'était pas non plus représentatif de tout le courant américain. Il y a aussi des Américains qui ont travaillé dans le domaine de la musique sérielle, par exemple, d'une façon beaucoup plus européenne. Et je pense aussi que quelqu'un, pour parler d'un compositeur toujours vivant, mais très âgé, américain, qui est Elliot Carter. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de parler spécialement avec Elliot Carter de Cage, mais je suis sûr qu'il n'était absolument pas intéressé, il n'est toujours absolument pas intéressé par la démarche de Cage. Ce sont deux univers différents.
Vous qui avez connu Cage, quel regard il portait sur sa propre personnalité, sur le personnage public qu'il était?
Je pense que c'est quelqu'un qui était assez humble. C'est pas quelqu'un qui pensait que comme un qu'il avait toujours raison. Il pensait pas qu'il avait le bon droit pour lui. Mais j'ai pas l'impression qu'il avait envie de parler de lui en ces termes-là. Dire le regard qu'il portait, il disait c'est ma démarche, c'est ma démarche, voilà.
Oui, surtout qu'effectivement, il n'avait pas peur d'affronter le public. On diffuse sur Qobuz en ce moment une vidéo d'une émission très très populaire de la télévision américaine des années 60, où il est invité sur un plateau télé. Il arrive avec toute sa quincaillerie, des baignoires, des cordes, des ficelles, il fait des démonstrations. Évidemment, le grand public rigole à gorge déployée, mais ça ne lui fait pas peur.
Mais c'est plutôt du type happening. Au départ, finalement. C'est pas quelque... Il ne s'est jamais pris vraiment au sérieux, j'ai l'impression. Bon, Mais c'est difficile parce que finalement, il avait une personnalité qui était totalement en dehors des autres courants. Il n'a pas essayé de faire de l'autocritique sur sa propre démarche. C'était sa démarche.
Finally, David Tudor looked at him and said, "If you don't know, why do you ask?" There's a street in Stony Point, in a lowland near the river, where a number of species of mushrooms grow abundantly. I visit this street often. A few years ago in May, I found the morel there, a choice mushroom which is rare around Rockland County. I was delighted. None of the people living on this street ever talk to me while I'm collecting mushrooms. Sometimes children come over and kick at them before I get to them. Well, the year after I found the morel, I went back in May expecting to find it again, only to discover that a cinder block house had been put up where the mushroom had been growing. As I looked at the changed land, all the people in the neighborhood came out on their porches. One of them said, "Ha ha, your mushrooms are gone." A composer friend of mine, who spent some time in a mental rehabilitation center, was encouraged to do a good deal of bridge playing. After one game, his partner was criticizing his play of an ace on a trick which had already been won.
Est-ce que vous pensez que certaines parties de son œuvre resteront plus que d'autres? Vous avez parlé notamment tout ce qui est pièces, effectivement, pour piano préparé.
Oui, non. Si on veut faire un bilan de l'œuvre de John Cage, on peut dire deux choses. Que c'est sur un plan intellectuel ou sur un plan de la démarche, très très intéressant, étrange peut-être, mais très personnel, et peut-être que ça s'inscrira dans l'histoire de la musique. En revanche, je pense que les œuvres, elles, ne s'inscriront pas dans cela. Parce que les œuvres ont finalement, celles qu'on connaît, celles qu'on a entendues, très peu d'intérêt finalement. Donc c'est la démarche plus que le résultat. Alors c'est un petit peu consternant parce que un musicien, un compositeur est jugé par ce qu'il compose et produit plutôt que par sa démarche. Mais là, je pense que pour Cage, c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, ses œuvres, beaucoup d'entre elles sont tellement indéterminées que si on dit qu'on aime telle œuvre, par exemple, je pense à une œuvre qu'on avait jouée dans un festival. C'est une œuvre où il y a un certain nombre de musiciens. Il peut en avoir un certain nombre, mais c'est pas déterminé. Ça peut être 2, 3, 5, 10. Et ces musiciens sont sur un parcours et ils jouent n'importe quoi pendant 3 minutes, par exemple. Bon, alors, évidemment, on ne peut pas parler de la qualité artistique d'une œuvre. C'est réellement un geste, disons. C'est rien de plus qu'un geste. Mais c'est un geste qui peut être révélateur d'un état d'esprit, pas seulement esthétique et musical, mais aussi social. Il y a quelqu'un qui aura fait aussi certaines démarches un peu parallèles, quoique avec plus de contrôle, c'est vrai, en Europe, c'est Mauricio Kagel. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des échos, bien sûr, de cette démarche en Europe, mais pas avec cet extrémisme. Je dirais que dans ce domaine, il a été vraiment un radical.
20 ans après sa disparition, qu'est-ce qui reste, vous pensez, aujourd'hui, en 2012, de John Cage?
Que
reste-t-il de John Cage aujourd'hui, en 2012?
Il reste une aventure individuelle. Il reste, en effet, des réflexions étonnantes. Il reste une histoire très, très curieuse et probablement unique. Mais c'est surtout ça, je veux dire, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ça soit un exemple pour d'autres compositeurs. Et puis déjà maintenant, c'est, par exemple, en ce qui concerne l'Europe, on revient à l'époque de mai 68 finalement. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque de mai 68, on pensait qu'on pouvait inventer du nouveau en sentable rap de beaucoup de choses. Et c'est une époque où on a joué les grandes œuvres de John Cage à Paris. ça allait dans le sens de ce courant de pensée. Mais 68, c'est déjà de la vieille histoire maintenant. Donc aujourd'hui, il est même pas une référence, il est une sorte d'ancêtre qui fait un peu sourire, j'ai l'impression. Mais je pense pas que la jeune école américaine puisse récupérer ce qu'a fait ou ce qu'a dit John Cage.
Bien, merci Claude Samuel pour tous ces témoignages.
Je vous en prie.
Merci.
Au revoir.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.